on est passé très brusquement d'une quasi-absence de la notion de discrimination dans le débat public, ou plus précisément d'un cloisonnement du débat public entre des sphères très particulières où la notion avait cours dans le cadre du droit, dans le cadre de l'économie, mais pas d'infusion dans le débat public plus général, à une configuration où effectivement on appelle discrimination à peu près tout et n'importe quoi, y compris des choses qui relèvent simplement de l'inégalité. On est passé très rapidement d'une sous-utilisation du terme à une surutilisation. Alors il y a des déterminants institutionnels, il y a des organismes comme le Haut Conseil à l'intégration, puis la HALT, puis le DDD qui ont joué un rôle important dans l'introduction du terme. Mais ce qui est frappant dans le cas français, si on le compare à d'autres, outre le fait que cette acclimatation s'est faite assez vite, c'est que la discrimination a été vue sous un angle très universaliste. C'est-à-dire qu'on a, plus que dans d'autres pays, multiplié les critères, on s'est empressé de les multiplier. Ce qui ne veut absolument pas dire que le droit antidiscriminatoire s'applique uniformément et également. Parce que précisément parce qu'on a multiplié les critères très vite, et bien plus que dans d'autres États, il y a une différenciation interne du régime d'action antidiscriminatoire français. Ce que j'entends par là, c'est simplement qu'il y a des politiques publiques de lutte contre certaines discriminations, mais pas d'autres, pour des raisons qui tiennent entre autres à l'accessibilité des données, mais peut-être aura-t-on l'occasion de l'évoquer.
Donc, aujourd'hui, il y a une vingtaine de groupes susceptibles de...
Plus que ça, il y a une vingtaine de critères prohibés, oui. Mais chaque critère prohibé peut donner lieu à la constitution de plus que deux groupes. On a deux groupes dans le cas d'hommes-femmes pour le sexe, mais dans le cas de race, ethnicité, origine nationale, caractéristiques génétiques, on a potentiellement une infinité de groupes protégés. Mais bien évidemment, en pratique, au niveau de l'action publique, la focalisation est très inégale selon les critères. Pour dire les choses très brutalement, on a des politiques publiques de lutte contre les discriminations à raison du sexe, à raison de l'âge, à raison du handicap dans une certaine mesure, à raison de race, ethnicité et religion, beaucoup moins.
Comment passe-t-on de la connaissance, et je vous interrogerai ensuite sur la connaissance des discriminations, à l'action publique? Est-ce qu'on peut avoir une estimation de l'efficacité, surtout s'il s'agit du racisme et de l'antisémitisme?
Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question qui soit généralement valide d'une époque à une autre ou d'un pays à un autre. Si on se focalise sur le cas français, ce qui frappe, c'est la relative inefficacité du droit antidiscriminatoire, parce que certaines conditions institutionnelles et sociales de son efficacité ne sont pas réunies en France au degré où elles ont pu être réunies ailleurs. L'une de ces conditions, c'est l'existence d'un mouvement social impulsé par les groupes discriminés eux-mêmes et qui finit par être perçu comme formulant des revendications légitimes. Aux États-Unis, il y a un mouvement noir, il y a des organisations noires. En France, toute organisation de type communautaire est assez rapidement soupçonnée de mettre en péril les principes mêmes du régime républicain. Bon, ça, c'est un obstacle relativement spécifique, qu'il est peut-être possible de surmonter, mais qui ne se trouve pas présent à un degré égal dans d'autres pays. C'est un obstacle de nature idéologique, si vous voulez. Il y a des obstacles plus concrets. La technique de la class action aux États-Unis, qui vient à peine d'être importée en droit français, permettait de faciliter des actions en justice pour lutter contre les discriminations en agrégeant des demandes individuelles. En pratique, si vous êtes un individu victime de discrimination, il est rare que vous ayez intérêt à porter plainte parce que les coûts induits pour vous par le processus consistant à porter plainte et ses conséquences sont vraisemblablement supérieurs aux gains que vous pouvez espérer d'une plainte qui aboutit. Mais ce qui est vrai à l'échelle individuelle cesse de l'être à l'échelle collective. Donc si vous pouvez agréger des cas individuels comparables de discrimination et permettre à une entité collective de porter la plainte, vous, si vous voulez, vous mutualisez les coûts et vous maximisez les bénéfices potentiels. Et donc là, la présence de cette technique en droit américain a été un élément important. Et puis, dernier point, les tribunaux se sont assez rapidement familiarisés aux États-Unis avec la notion et ils n'ont pas hésité à, disons, délivrer des sanctions qui parfois étaient dissuasives. Il y a des grandes entreprises qui ont payé des millions de dollars sur des cas de discrimination avec des effets dissuasifs, et ce, dès les années 70. Donc là, on est en retard pour des raisons institutionnelles variées.
C'est très important, mais dans ce que vous dites, le point qui me semble le plus fort, c'est quand même que l'action publique a besoin, si on veut qu'elle soit efficace, n'a de sens que portée par des mouvements, des contestations, des acteurs qui, en dessous, si je peux dire, exercent une pression.
C'est effectivement un rapport dynamique et sans la présence de l'élément de pression sociale, il est plus difficile d'aboutir à une action publique efficace. J'ajouterais néanmoins que Les pays qui ont mené des politiques de lutte contre la discrimination efficaces, et en particulier des politiques d'action positive, sont des pays qui ont presque tous un point commun, c'est celui d'avoir été confrontés à des menaces assez sérieuses à l'ordre public. Ce sont des pays qui ont dû faire face à des émeutes de grande ampleur, ou à une situation de pré-guerre civile, ou à la perception d'une possible situation de pré-guerre civile. C'est vrai des États-Unis des années 60, c'est vrai de la Malaisie, c'est vrai de l'Afrique du Sud, c'est vrai de l'Irlande du Nord, plus près de nous. Et donc, c'est pas un message spécialement optimiste, mais d'une certaine façon, plus le degré de crise est aigu, ou plus le degré de crise perçue comme telle est aigu, plus il y a des chances que les pouvoirs publics agissent de manière résolue, parce que ce qui était précédemment perçu comme une question de justice sociale ou une question d'équité devient aussi perçu comme une question d'intégrité de l'ordre politique lui-même. Et lorsque cette condition est réunie, y a beaucoup de blocages qui semblaient insurmontables d'ordre idéologique ou juridique ou les deux à la fois qui sautent.
Oui, alors qu'en France, on peut dire que la réponse à des... Parce qu'il y a eu aussi des émeutes, des violences, mais la réponse, elle est « Vive la République, une et indivisible ». C'est le modèle républicain qui est mis en avant et qui est supposé répondre à des demandes sans écouter, en quelque sorte, les acteurs collectifs. Donc la prégnance du modèle républicain français fait peut-être que ce thème est moins qu'ailleurs transformé en action publique.
Oui, mais aussi précisément parce qu'il est universalisé et son universalisation dilue d'une certaine façon. Parce qu'évidemment, la hiérarchie dans l'application du droit antidiscriminatoire que j'évoquais, elle n'est nullement officielle, nullement explicite. On est censé lutter également contre toutes les formes de discrimination, mais en pratique, on ne le fait pas et c'est un secret de Polichinelle.